Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine électoral. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci de nous écouter partout où vous êtes en République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, nous parlons de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. La CENI a organisé le 10 avril dernier l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Cependant, il y a certaines provinces où il n'y a pas eu élection. Il y a d'autres provinces où il est prévu un second tour. Eh bien, on aborde toutes ces questions aujourd'hui avec Monsieur Désiré Molekela Ebene, directeur de l'éducation civique, électorale et sensibilisation à la CENI. Monsieur Désiré Molekela, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans ce magazine électoral. Des questions et préoccupations, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Jean-Noël Mokondo, à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation. Au micro, Jody Daniel Kachama sous la supervision de Tina Salama. Bienvenue à tous.
Radio Okapi. À Uvira, Okapi, sur 105.3 FM. Okapi.
Bien, la CENI a organisé le 10 avril dernier l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Cependant, il n'y a pas eu élection dans les provinces de Sankuru et Sud Ubangi. Par ailleurs, la CENI doit organiser le deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Haut Lomami, Kasaï Central, Nord Ubangi et la Tshopo. Pourquoi il n'y a pas eu élection dans certaines provinces? Pourquoi le deuxième tour dans d'autres? Eh bien, toutes ces questions, nous allons les aborder aujourd'hui dans le magazine électoral avec notre invité, Désiré Molekela Ebene, directeur de l'éducation civique, électorale et sensibilisation à la CENI. La première question, Monsieur Désiré, pourquoi la CENI n'a pas organisé l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au Sankuru et au Sud Ubangi?
Il n'y a pas eu élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au Sankuru et au Sud Ubangi, uniquement pour des raisons techniques et administratives. Le président de la CENI, Colonel Nanga, a expliqué. Mais de toute manière, cette élection a été reprogrammée pour le samedi 13 avril 2019.
C'est pour des raisons techniques lesquelles?
Bon, vous savez que quand il y a un dépôt de candidature, la CENI publie la liste provisoire des candidats et il y a une période de contentieux. Et le contentieux est généralement géré par la cour administrative d'appel selon la loi électorale. Mais cette fois-ci, il s'est fait que, notamment pour le Sankuru, un candidat a déposé un recours devant une autre juridiction qui a pris des décisions. Donc, pour ces raisons-là, et pour des raisons évidentes, on a estimé qu'il fallait un peu sursoir, le temps de voir clair. C'est ainsi que le président a parlé des raisons techniques et administratives.
Donc c'est renvoyé pour quelle date, vous avez dit?
Pour le samedi 13 avril 2019.
Pour le 13 avril. Et il y a une autre province où il n'y a pas eu élection, il y a Sud Ubangi. Est-ce que c'est toujours là pour les mêmes raisons?
Oui, il y a les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques perturbations qui n'ont pas permis à ce que l'élection ait lieu. C'est comme ça qu'on a préféré prendre quelques jours pour que tout soit en ordre, de sorte que l'élection ait également lieu dans cette province le 13 avril 2019.
Et pourquoi un second tour dans les provinces du Haut Lomami, du Kasaï Central, Nord Ubangi et à la Tshopo?
Dans ces quatre provinces, après le vote qui a eu lieu le mercredi 10 avril 2019, aucune liste, aucun ticket de candidat, gouverneur et vice-gouverneur, n'a pu atteindre la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. Et la loi est claire à ce sujet. La loi exige alors que l'élection soit organisée dans les trois jours. C'est comme ça que cette élection aura lieu le samedi 13 avril.
Aucune
2019.
Liste n'a atteint la majorité.
La majorité absolue.
C'est-à-dire, expliquez-nous comment ça se passe concrètement.
Bon, normalement, s'il y a plusieurs listes, on a par exemple 40 députés provinciaux. Pour être élu, il faut avoir la moitié des voix, 20 plus une, 21 voix. Or, aucune liste n'a eu la moitié de voix dans ces provinces.
C'était en deçà de, voilà. Peut-être 18,
oui.
15.
Disons, c'est en deçà de 50% plus une voix.
Oui.
Il y en a qui ont eu 40% de voix, 20%. C'est la raison pour laquelle, alors, pour les deuxièmes tours, uniquement les deux listes qui étaient en tête vont de nouveau compétir pour l'élection qui a été donc, qui sera reprise le samedi 13 avril 2019.
Mais pourquoi on ne pouvait pas prendre celui qui avait un peu plus que les autres? Bien que tous n'ont pas atteint les 50%.
Bon, c'est la règle. Parce que normalement, il y a plusieurs majorités. S'il y avait, la loi disait qu'il fallait une majorité simple, dans ce cas-là, celui qui a le plus de voix passe, hein, même s'il a moins de la moitié de voix. Mais la loi exige, pour ceux de gouverneur et vice-gouverneur, que le ticket gagnant puisse avoir au moins la moitié des voix plus une, c'est ça qu'on appelle la majorité absolue. Et comme aucune liste n'a pas atteint cette majorité absolue, la CENI est contrainte à organiser un deuxième tour qui a lieu donc 3 jours après le jour du vote où personne n'a eu la majorité absolue.
Donc, et qui sont concernés par ce deuxième tour, par ce second tour?
Bon, disons que pour l'Olomami, je peux citer les noms, hein, puisque c'est connu, c'est Lenge Masangumpoyo Marcel, candidat indépendant, Kalenga Mwenzemi Jackson, PPRD. Pour le Kasaï central, M. Kabuya Mulamba, Kabitanga Martin, candidat indépendant, et M. Ngandu Kayembe Valentin, candidat du PPRD. Nord Ubangi, M. Nzege Koloke Izato, candidat indépendant, et Setissa pour Bienvenue, candidat indépendant. Par contre, pour la province de la Tshopo, c'est M. Wale Lufungula Louis-Marie, candidat indépendant, et M. Lomata Congolais Constant, qui est de la CO. Voilà en fait les candidats qui vont compétir pour le deuxième tour le 13 avril 2019.
Voilà. Et combien de femmes ont été élues à gouverneur, Monsieur Désiré Molekela?
Bon, après le vote du 10 avril, malheureusement, aucune candidate femme n'a été élue gouverneur. Il n'y a que des hommes qui ont raflé tous les postes de gouverneur.
Et pourtant, il y a eu des candidatures féminines.
Il y en a eu. Notamment à la Tshopo, il y a eu candidat féminine, mais malheureusement, aucune candidate féminine n'a pu avoir la majorité absolue des voix.
Et combien de femmes ont élu vice-gouverneur?
Ah, là, il y a quand même quelques femmes. Hein. En fait, il y en a eu deux. Deux femmes ont été élues vice-gouverneur.
Dans quelle province exactement?
Oui, province du Lualaba et du Kasaï oriental. Donc, c'est ici qu'il faut rappeler, en fait, qu'il faudrait que c'est la bataille des femmes de participer davantage à la chose publique. Mais il faut peut-être qu'il y ait plus de candidatures femmes pour qu'il y ait plus de résultats. Parce que souvent, en fait, il n'y a pas beaucoup de candidatures femmes. C'est peut-être dû à nos mœurs, ou peut-être à une tradition qui fait que les hommes s'intéressent plus à la politique que les femmes. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait plus de femmes candidats. Je pense qu'à ce moment-là, on aura peut-être plus de femmes aussi élues à des postes, à des mandats électifs.
Merci à tous les internautes qui ont déjà réagi sur la page Facebook d'Okapi Service. Freddy Vainqueur Toubadi Mbilingai Ademba nous dit ceci. Je remercie Radio Okapi pour cette émission. Concernant le sujet que vous avez lancé, les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs n'ont pas eu lieu dans certaines provinces compte tenu des problèmes organisationnels. Par exemple, il y avait quelques provinces dans lesquelles la corruption a été mentionnée, Sankuru et Sud-Ubangi. On ne pouvait organiser les élections dans de telles conditions. Pour le Kasaï central et d'autres provinces, on va passer au deuxième tour au cas où aucun candidat n'a eu la majorité absolue. Exigé au premier tour. Ici, la loi est claire. Il procède dans les 3 jours. La CENI procède dans les 3 jours à un second tour des scrutins. En cas d'égalité des voix, la liste dont le candidat gouverneur est le plus âgé l'emporte selon l'article 170 de la loi électorale. C'est Freddy depuis Demba qui nous le dit. Monsieur Désiré.
Oui, effectivement, je pense qu'il a tout à fait raison. Il a bien lu la loi électorale. C'est ce qui est prévu, effectivement, lorsque, au premier tour, aucune liste, aucun ticket de candidat gouverneur, vice-gouverneur dans la majorité absolue. Dans les 3 jours, alors, on organise d'autres élections. Mais, bon, il évoque quand même le problème de corruption. Effectivement, on en a parlé. L'opinion publique en a parlé. Il y a beaucoup de plaintes, dont politiques, société civile. Mais vous savez, en matière d'accusation, il faut toujours amener la preuve. Parce que la CENI est impuissante. Et, en fait, s'il y a eu corruption, il n'appartient pas à la CENI de pouvoir répondre à cet acte-là. C'est au niveau de la justice. Donc, soit le procureur va se saisir du dossier et mener l'enquête, soit s'il y a une plainte avec des preuves, à ce moment-là, on peut trouver une solution. Mais nous, ce que nous faisons, c'est organiser les élections dans des conditions telles que prévues par la loi. Et c'est ce qui a été fait.
Marcel Didier Passois nous appelle de Luisa. Bonjour Marcel.
Bonjour, monsieur Dudy. Bonjour à tous les auditeurs des Radio Okapi. Je venais ici d'ailleurs pour saluer la faisabilité et aussi les passages des scrutins des gouverneurs, quelles que soient les quelques imperfections que cela a eu. Je m'en vais directement pour poser ma petite préoccupation à l'invité pour dire si jamais, que fera-t-on si jamais au second tour aucun ticket n'arrivait à atteindre la majorité attendue dans les provinces où on a eu à différer d'abord les élections pour les 13. La deuxième préoccupation, comme il parle lui-même là de preuves, si jamais on trouvait réellement que les preuves sont tangibles dans les provinces précitées, par exemple c'est à Lubumbashi où monsieur l'ex-bâtonnier Muyambo a dénoncé, si jamais les preuves sont tangibles, quelles sont les mesures qu'ils prendront pour cela? Parce que il y a longtemps, on a parlé des corrompus et des corrupteurs aux élections de sénateurs, mais jusque-là, cela est resté lettre morte. Quelles réactions par rapport à ceci? Je vous remercie, monsieur.
Bien, merci Marcel. Didier, depuis Luisa, on parle de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province dans ce magazine électoral. Ernest, vous êtes à Matadi, bonjour.
Bonjour les amis de Radio Okapi et bonjour à l'invité.
On vous écoute, quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup d'emblée. Je dis que chez nous, ici à Matadi, l'élection s'était bien passée, sans trop de tensions telles qu'on le pensait, qu'il y a eu affrontement des adhérents, des adeptes de l'un ou de l'autre candidat. Mais c'est très bien passé. Mais ce que je note, la question que je pose à l'invité, il semblerait que pour le Sankuru, il n'y a pas eu élection parce qu'il y a un seul candidat. Et comment la CENI s'est retrouvée dans une situation où il y a un seul candidat et puis en capacité de gouverner l'élection? Parce que si c'est un seul candidat, alors que c'est une nomination, il n'y a pas élection. Parce qu'on parle d'élection, c'est qu'il y a deux ou plusieurs candidats. Donc ça, c'est ma préoccupation. Et quant au sujet de la corruption, je crois que la CENI ne doit pas continuer à renvoyer la balle dans les camps de chercher des preuves, C'est une question qui revient à la surface. Et je vois que la CENI, au sein de la CENI, il y a des juristes qui peuvent lancer des mécanismes de vérifier ce genre de rumeurs. Parce que sinon, on va se retrouver avec ce dossier qui viendra à chaque fois. C'est pourquoi nous réclamons que prochainement qu'on puisse revoir la loi électorale et que les gouverneurs, les autres, soient tous élus au suffrage universel pour éviter aussi ce genre de difficultés. Voilà un peu ma préoccupation.
Merci Ernest de Matadi. Bindou Maombi, vous êtes à Massissi. Bonjour.
Bonjour Jabi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces?
Oui, ma préoccupation va s'adresser directement à l'invité parce que j'ai des questions que je vais adresser à l'invité. Et la première question est de savoir...
Oui? Désolé, Bindou n'est plus en ligne, Monsieur Désiré Moulekela.
Bon, d'abord, je vais répondre à la préoccupation de Marcel de Luisa. Il a quand même salué l'élection du gouverneur. Merci beaucoup pour avoir salué cette opération menée par la CENI. Il dit, si au deuxième tour, aucun ticket de la majorité, qu'est-ce qui va se passer? En fait, au deuxième tour, il faut qu'il y ait majorité. Comme il n'y a que deux candidats, soit si le nombre de députés provinciaux est un nombre impair, il est évident qu'il y aura quelqu'un qui aura la majorité sur l'autre. Mais ce n'est que le cas où, si le nombre des députés provinciaux a un nombre pair, par exemple, tout à l'heure j'ai dit 40, il est possible que les deux candidats aient 20 voix et l'autre 20 voix. Et dans ce cas-là, la loi a prévu que la liste où le candidat gouverneur est le plus âgé passe en cas d'égalité de voix. Donc la loi a déjà prévu ce cas.
Donc lorsqu'il y a un deuxième tour, oui, et qu'après c'est ex aequo, alors oui, à ce moment-là, on prend
la liste
du candidat le plus âgé.
Voilà, où le candidat gouverneur est le plus âgé. C'est ça que dit la loi et c'est ce qui sera appliqué si jamais cela va se passer. Alors, deuxièmement, il évoque toujours, parle des preuves tangibles. Bon, écoutez, normalement, la CENI organise les élections en fonction de la loi. La loi est claire et la CENI suit la loi. Si jamais il y a des actes contraires, je pense qu'il y a toujours une période de contentieux. Lorsque la CENI publie la liste provisoire des personnes élues, ou quelqu'un qui est mécontent, un candidat indépendant, un parti politique, peut être en justice. Je pense que les rôles sont bien déterminés.
Mais il y a Ernest qui nous dit que la CENI a des juristes. Quand on constate qu'il y a la corruption Pourquoi les juristes de la CENI ne peuvent pas se mettre en mouvement pour faire quelque chose?
Parce que la CENI est une institution donc pour organiser les élections, mais la CENI ne fait pas partie des cours et tribunaux.
Elle n'est pas là pour suivre des cas de corruption.
Exactement. Mmh. Lorsque, comme j'ai dit, il y a contentieux et qu'effectivement les cours et tribunaux appellent les parties pour pouvoir départager, la CENI est invitée en tant que technicien pour éclairer la religion de la cour. Mais la CENI n'est ni membre d'une cour, n'est pas partie prenante. On a des juristes, certes, le rôle, lorsqu'il y a contentieux, qu'il y a donc une affaire qui est appelée devant la cour, la juridiction compétente pour le contentieux, la CENI siège uniquement en tant que technicien. Voilà ce que je peux répondre à cette préoccupation.
Et Ernest parle du Sankourou, où comment est-ce que la CENI peut accepter, valider la candidature d'une seule personne, et pourtant, comme il y a élection, on doit avoir plusieurs candidats.
La loi est claire. On n'exige pas qu'il y ait un nombre de candidats pour qu'il y ait élection. S'il y a deux candidats, trois, quatre candidats, on fait les élections. S'il y a un seul candidat, on fait quand même les élections. Parce que s'il y a un seul candidat, pour que ce candidat soit élu, il faut qu'il y ait élection. Donc la CENI ne peut que faire les élections, même s'il y a un seul candidat. Donc ce n'est pas l'affaire de la CENI.
Bien, on va accueillir Platini Mbombo de Mbandaka et Maître Gaston de Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Platini Mbombo, bonjour.
Je dis Daniel Kachama, bonjour. Bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Merci beaucoup, j'ai dit, pour la thématique d'aujourd'hui. C'est très important parce que nous tous, on a assisté à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans nos différentes provinces à la République du Congo. Bien que la CENI a organisé l'élection qui s'était passée le 10 avril 2019, j'ai dit, moi personnellement, je suis un Mbandaka, je suis aussi quelqu'un des médias, parce que j'étais à l'hémicycle comme un journaliste accrédité de la CENI. J'ai vu le déroulement de l'élection au sein de l'hémicycle de la République de l'Équateur. Mais il se pose sérieux problème, parce que il y a certains candidats qu'on a vus sur la liste de la CENI postulent comme indépendants. Mais lors de la publication aujourd'hui, on a vu que quelqu'un qui il était du parti du PPRD, mais sur la liste de la CENI, on a vu que le candidat est indépendant. C'est coup de chapeau du nouveau gouverneur élu sur la province de l'Équateur. Alors, je voudrais quand même avoir un peu l'idée, parce que l'élection au niveau du Sud-Ouest s'est reportée. Je crois que c'est après trois jours qu'on va organiser l'élection au niveau du Sud-Ubangi, tout ça. Et j'ai suivi encore ce matin le directeur cabinet adjoint du chef de directeur cabinet le directeur de propagande adjoint du chef de l'État qui a dit appelle les FCC et CAC de se mettre ensemble pour décoller notre province. Et partout à travers la rue de Boissy du Congo, on a vu que c'est la FCC qui a reporté l'élection partout à travers le pays. Est-ce que le président de la République prend rapidement le courage d'investir les gouverneurs, ce gouverneur? Parce qu'il n'y a pas un gouverneur qui est élu au niveau de l'UDPS, il n'y a pas un gouverneur qui est élu au niveau de l'État, et tout ça. C'est ça ce qui pose de créer un pays. Alors, si l'invité peut me dire, quel est ce qu'on a vu là, que quelqu'un postule dépendant, mais il est sorti élu gouverneur sur liste du PPRD. C'est ça, je veux quand même avoir de l'idée par rapport à tout ce qui s'est passé ici chez nous à l'Équateur. Et je vous aussi à souhaiter un succès à tous les gouverneurs élus à travers tout le pays.
Merci à Platini de Mbandaka. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jody. Et l'invité aussi.
On vous écoute.
Bon, premièrement, je dis, j'entends souvent, je n'ai jamais entendu la CENI dans son langage électoral citer les termes tels que FCC, cash. Pourquoi? Ça, c'est la première question que l'invité pouvait nous répondre. Et nous constatons que ces mêmes termes-là prennent de l'ampleur dans le monde politique où il y a vote. Au lieu de regrouper les partis politiques par rapport au regroupement politique, ou les candidats par rapport à leur regroupement, soit indépendant, soit parti politique, on cite plus les termes que j'appelle moi diabolico-électoral, qui prend de l'ampleur et qui a lié place des partis politiques et regroupements qui sont connus dans la loi électorale. Pourquoi et quelles sont les conséquences de ce phénomène-là? Et puis, je voulais aussi demander concernant la liberté des votes. Vous savez, concernant les votes directs, là, il y a des gens qui sont militants des partis politiques, des groupements politiques, mais on n'oblige à personne hein, de pouvoir voter que les candidats présentés par son parti ou son regroupement politique. Là, on dit, vous êtes libre, vous votez selon que vous êtes convaincu. Et pourquoi au niveau, au second degré, on oblige aux électeurs de ne voter ou de ne pas voter les candidats présentés par leur parti? Vous voyez un peu ça, moi je voulais, quelle est la place de la liberté de vote dans les cas d'espèce? Et je voulais aussi demander, comme il y a report, nous voyons de temps en temps report, est-ce que ces reports-là, surtout concernant les élections des gouverneurs d'autres entités qui ne sont pas encore faites, je pense aussi être sénateur, hein, non, le gouverneur, quelles sont les conséquences par rapport à la constitution du gouvernement, est-ce que ça n'aura pas d'impact quant à ça? Et pour finir, je voulais demander, s'il vous plaît, qu'on puisse expliquer bien les choses, parce que au niveau direct, je vois les gens venir donner des cadeaux, des trucs comme ça aux électeurs, ça ne fait pas écho. Mais au niveau, là on laisse la liberté, vous êtes libre de voter, mais les cadeaux ne fait pas écho. Et pourtant c'est la même méthode qu'on applique au niveau second degré. Les cadeaux qu'on peut donner à n'importe qui est libre de voter qui il veut, mais les cadeaux se transforment en corruption, qui à mon avis, on ne devrait même pas parler de la corruption, parce que si vous doutez, je vous renvoie à la définition de la corruption dans les codes pénals.
Merci. Il y a deux acteurs en présence. Oui, merci. Il y a deux acteurs. Il y a le corrupteur et le corrompu, oui, qui sont tous punis.
Il doit y avoir un agent de l'État. Il doit y avoir un agent fonctionnaire de l'État. Et non, et si dans le cas d'espèce, il n'y a pas électeur élu, il n'y a pas un fonctionnaire. Hein.
D'accord, merci Maître Gaston Malonga, vous êtes à Bandounouville et Rigen, vous êtes à Guémena. Nous parlons de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Malonga, bonjour. Malonga, vous êtes à Bandounouville, bonjour.
Oui, bonjour Jody et bonjour à notre invité.
Quelle est votre question?
Bon, ma question d'abord, lorsque le report est là, est-ce qu'il y aura un temps encore de campagne pour le candidat restant, puisque pour les contrôler très bien, puisque je félicite d'abord tous les gouverneurs élus et tous les candidats gouverneurs qui seront en fil d'être élus aussi. Puisque si chez nous, en tout cas, c'était passé très bien, malgré il y a eu les soucis de candidats malheureux, mais c'était passé sans incident. Willy Etunda allait passer, en tout cas, félicitations à lui et à tous ceux qui sont passés. Bon, c'est ce que je veux demander à l'invité. Est-ce que la période qui reste, puisque la période qui passe, ça montre qu'il y avait un vrai choix. Les députés ont voté vraiment des choix. Parce que là où il y a vraiment des voix égales, ça montre que chacun a voté de son choix. Félicitations. Alors, ce deuxième tour, il faut que la CENI ouvre vraiment l'œil, hein, pour que la période ou bien l'étape des sénateurs ne se révèle plus encore dans ce deuxième tour. Pour le cas de Yumbi et de Benila, en tout cas, nous les entendons. Mais ceux qui sont reportés, ce sont ceux que la justice ou bien la sécurité peut vraiment jeter leur regard, puisque les candidats restants doivent vraiment s'en frotter, vraiment définitivement, et chacun doit se montrer de quoi il est fort.
D'accord, c'est merci.
Là où la corruption intervient.
D'accord, merci. Rigen, vous êtes à Guémena, bonjour.
Oui, bonjour, je ne suis pas à Guémena, je suis à Karawa, dans la province du Nord-Oubangi.
Tati, il n'est pas à Guémena, il est plutôt à Karawa, d'accord. Et quelle est votre préoccupation?
Ouais. Ok, le sujet est intéressant. Ma préoccupation est celle-ci. Je voulais un peu demander à nos élus, les grands électeurs, puisque souvent, des fois, nous constatons les candidats dont la population expert sur lui, les candidats dont la population a vraiment confiance, mais nos grands électeurs n'arrivent pas toujours à les désigner pendant les élections. Nous prenons le cas de nous au Nord-Oubangi par exemple. Nous avions un candidat dont nous avons placé confiance, mais dommage que pendant les élections qui a eu lieu ce mercredi ici, nos grands électeurs n'ont pas aidé vraiment la population à faire le choix de ces candidats. D'où nous tenons toujours à regretter, puisque chez nous, c'est toujours comme ça, on nous désire des candidats qui n'est pas vraiment dans le vouloir de la population. Est-ce que prochainement, la constitution de notre pays ne peut pas accepter à ce que les élections des gouverneurs puissent avoir lieu par la population, avec le système de suffrage direct, au lieu de passer par le système indirect?
Merci. C'est ma préoccupation. Merci, Yann de Karawa. Georges, vous êtes à Manono, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. J'ai quelques questions à demander à notre invité. La première, monsieur Jody, j'aimerais demander à l'invité qu'est-ce que la majorité absolue? Parce que moi, je ne comprends presque rien là-bas. La majorité absolue, c'est quoi? Ou bien, quelle sera la CENI encore si, en cas des élections, lorsqu'elle organise encore les élections, et qu'il n'y ait pas encore un bon partage, qu'est-ce que la CENI va encore faire? Et la dernière question, j'aimerais demander à notre invité, pourquoi, bien sûr, l'invité lui-même essaie d'esquiver la question, soit la CENI elle-même veut esquiver la question selon laquelle si la CENI a des preuves que le candidat gouverneur gagnant a fait la corruption pour passer la CENI et ne pas intervenir. Mais je prends l'exemple. Quand on était pendant la période des élections présidentielles, on a vu Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito, et bien la CENI avait les juristes pour essayer d'étudier les cas-là de Jean-Pierre Bemba. Mais ici, pourquoi la CENI ne peut pas peut-être s'impliquer pour qu'il y ait des solutions à partir de la CENI? Parce qu'on a vu, il y a certains candidats gouverneurs qui ont usé des moyens pour faire la corruption et il y a des preuves. Pourquoi la CENI ne doit pas s'impliquer pour essayer peut-être de casser les gens qui ont utilisé leurs moyens pour faire la corruption? Voilà tout, M. Jout.
Bien, merci pour toutes ces préoccupations. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, Désiré Molekela Ebene, directeur de l'éducation civique, électorale et sensibilisation à la CENI, est notre invité. Monsieur Désiré, à vous la parole.
Ok, d'abord il y a Monsieur Platini, qui est journaliste, qui est accrédité, et qui s'est dit le candidat qui a été...
Indépendant. Mais après l'élection, il a gagné, il se retrouve sur la liste d'un parti politique.
Non, ça dit qu'il faut être clair. Un candidat peut être membre de parti politique, PPRD soit-il ou UDPS, mais il peut postuler en tant qu'indépendant. À ce moment-là, généralement, c'est un problème de discipline au sein du parti. Si le parti l'autorise à postuler comme indépendant, ça ne pose pas de problème. Il n'y a que le parti qui peut peut-être dire non, écoutez, ce candidat-là, si jamais dans la même circonstance, même scrutin, un membre d'un parti politique est candidat et que son parti a aussi posé une candidature, il est évident que pendant qu'on va examiner, on peut effectivement déclasser la candidature de l'indépendant. Ça, c'est normal. Mais si le candidat, membre des partis politiques, pose tout comme indépendant et à la cour du parti, la CENI ne peut que acter cette candidature.
Est-ce que ce n'est pas une sorte de tricherie?
Non, ce n'est pas une tricherie.
Parce qu'après la publication, on déclare qu'il est candidat de tel ou tel autre parti, alors qu'au départ, il s'est présenté comme indépendant.
Non, quand la CENI publie tel que le candidat a présenté sa candidature. S'il a postulé comme indépendant, on dira tel candidat indépendant a été élu gouverneur. Donc c'est pas la CENI qui va changer, disons, la qualité du candidat, soit indépendant ou parti politique. Donc c'est peut-être les gens qui constatent que ce candidat est du PPRD, mais il a postulé comme indépendant. Alors on n'interdit pas cela, sauf dans le cas où il y a concurrence, ou dans une même circonstance pour un même scrutin, un candidat se présente comme indépendant, et que le même parti également postule. À ce moment-là, le choix est clair, priorité d'abord au parti. Voilà comment je peux répondre à la préoccupation de Platini. Alors, il parle aussi de l'investiture des gouverneurs et des vice-gouverneurs par le chef de l'État. C'est la loi qui le dit. Lorsqu'il y a élection, gouverneur et vice-gouverneur, la CENI publie la liste provisoire des candidats élus. Il y a un temps de contentieux, et les cours et tribunaux, ici, il s'agit en fait de la cour administrative d'appel, proclame les résultats définitifs. Et à ce moment-là, tous les dossiers sont envoyés à la présidence de la République pour investir ceux qui ont été nommés. C'est ça la procédure. Alors, il y a également Gaston de Kinshasa qui dit, bon, on parle beaucoup
des FCC cash, vous voulez parler des partis politiques. Bon,
il faut savoir que le FCC et cash sont des plateformes politiques. Ce ne sont pas des regroupements politiques. Car tout parti politique, regroupement politique, pour être reconnu, aussi bien au niveau de la CENI, doit aller au ministère de l'administration du territoire pour être agréé. Et c'est comme ça que lorsque les candidats déposent leur candidature à la CENI, ils ne le font pas au nom d'une plateforme, mais ils le font au nom, soit comme indépendant, soit d'un parti politique ou d'un groupement politique. Ça se passe comme ça. Il ne faut pas faire la confusion entre plateforme politique et regroupement politique. Monsieur Gaston évoque également la liberté de vote.
Il dit qu'il n'y a plus de liberté de vote.
Lorsqu'il y a scrutin direct, l'électeur est seul devant son choix, et il vote, il est libre. Mais lorsqu'il y a scrutin direct, selon lui, il dit qu'il n'y a plus de liberté de vote. Cela n'engage que lui. Parce que, en fait, la CENI a pris des dispositions pour garantir la liberté de vote. Parce que le vote se fait dans l'isoloir.
Et le vote est secret, mais on a appris qu'il y a eu, on a suivi des vidéos des personnes qui protestaient le fait qu'il y a des électeurs qui se faisaient accompagner de certaines personnes qui allaient vérifier si exactement ils ont noté les noms de tel ou tel autre candidat.
Oui, on a appris cela. Je pense même que dans une des provinces, il y a eu au niveau de la justice un candidat qui a trouvé un recours. Donc il faut attendre maintenant que...
Et qu'il y aurait même des stylos munis des caméras. Lorsque vous notez les noms d'un candidat, ça enregistre automatiquement.
Oui, l'opinion publique est alimentée de ce genre de faits.
D'informations.
Je pense qu'il faut laisser maintenant la justice faire son travail. Voilà ce que je pourrais dire à propos de cette... Alors, il parle également du report. Lorsqu'on reporte, on reporte pour 3 jours.
Est-ce qu'il y aura encore campagne pour les villes où il y a eu report?
Non, il n'y a plus campagne. Une seule campagne, une fois pour toutes, et lorsqu'il y a report parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu la majorité, dans les 3 jours qui suivent, on fait les scrutins sans campagne électorale. Voilà comment ça se passe.
Voilà, Erigan veut savoir si le choix des grands électeurs est contraire au choix de la population. Pourquoi ne pas changer la loi électorale pour que finalement ces élections des gouverneurs et vice-gouverneurs soient au scrutin direct?
Oui, effectivement, de plus en plus dans l'opinion, beaucoup d'hommes politiques, même de professeurs, de scientifiques, société civile, estiment que le scrutin indirect favorise en quelque sorte
la corruption.
La corruption, c'est possible. Il faut encore faire la preuve. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est en fait réformer la loi électorale. C'est tout ce qu'il faut faire. Soit on peut élargir le corps électoral, l'élargir peut-être au lieu de que ça soit seulement limité au niveau des
députés provinciaux.
L'élargir peut-être au niveau des députés, des conseillers communaux, des conseillers urbains, conseillers de secteur. De sorte que là, peut-être, il y aura plus difficile à pouvoir corrompre parce que l'électorat est élargi. Ou alors, certains disent qu'il faut aller au scrutin direct. Avec toutes les conséquences, un scrutin direct demande...
C'est lourd à organiser.
C'est sur le plan logistique et ça demande beaucoup de moyens. Parce qu'à ce moment-là, nous avons à peu près 40 millions d'électeurs dans la base de données de fichier électoral. Pour chaque scrutin, il faut convoquer les 40 millions d'électeurs et prévoir les bureaux de vote pour les 40 millions d'électeurs et prévoir les bulletins de vote pour les 40 millions d'électeurs. Donc, c'est coûteux. Maintenant, c'est à voir, est-ce que le législateur va effectivement aller jusqu'à revoir la loi électorale? Bon, ça, il appartient au législateur de le faire.
Et Georges de Manon veut savoir qu'est-ce qu'on entend par majorité absolue.
La majorité absolue, je comparais ça à la majorité simple pour que les gens comprennent. On dit majorité simple lorsqu'il y a un scrutin. Si par exemple il y a 10 votants, il y a 3-4 candidats, celui qui a le plus de voix passe. Un candidat peut avoir 3 voix, un autre 4 voix, un autre peut-être 2 voix ou une voix. Il n'a pas même pas la moitié, mais il passe. C'est comme pour le scrutin présidentiel. Dans notre pays, c'est à la majorité simple. Celui qui a le plus de voix passe. Avant, il y avait un deuxième tour, au cas où au premier tour, il n'y avait pas un candidat qui ait la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. La majorité absolue, en fait, c'est plus court, c'est parce qu'on demande que le candidat ait au moins la moitié de voix, une voix. C'est en fait pour crédibiliser davantage cette élection. Voilà ce qu'on appelle par majorité absolue.
Gérard, vous êtes à Djougou. Pierrot Pagna nous appelle de Lubumbashi. Nous parlons de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces dans ce magazine électoral. Vous voulez participer? Appelez au 081 890 6394.
Oh, Mario.
Tout le monde,
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio.
Allez, Aïcha, Aïcha, premier gars,
Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Magazine électoral, élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Gérard, vous êtes à Djougou. Bonjour.
Bonjour Radio Okapi et bonjour à tous les Okapistes de la RDC et du monde entier.
Quelle est votre question ?
L'élection est très bien passée. Le candidat qui a réussi, c'est vraiment l'entente de la majorité de la population, pour ne pas dire toute la population, car dans ce monde, il n'y a jamais de 100%, sinon il n'y aurait pas d'autres candidats. Cette fois-ci, ce qui nous a plu le plus, c'est que nous tous avions peur, car un regroupement politique parlait d'avoir amené une délégation pour soutenir leur candidat et s'autoproclamer vainqueur car ayant la majorité des députés provinciaux. Mais heureusement, le mot d'ordre n'était pas suivi tel comme prétendu. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous, le peuple, ne sommes pas contre la FCC, mais contre son système de gestion. Pendant son règne, il y a eu surtout l'impunité et puis l'insécurité et pire encore de tout, c'est l'égoïsme politique qui serait à la base de tout, selon moi, car sinon, il n'y aurait pas ces antivaleurs. Par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il satisfait la corruption, le dénouement du cadeau, mais quel cadeau qui apparaît juste quand on a besoin d'un service? Comment peut-il définir donc la corruption? Même si le pouvoir actuel ne parvenait pas à renverser cet antivaleur, lui aussi sera volé demain. Donc, que la FCC et le pouvoir actuel travaillent à faveur du développement, c'est ça notre souhait.
D'accord.
Aussi, je souhaite en tout cas bon service, prospérité à notre gouverneur. Et de qui nous attendons beaucoup, beaucoup, et je pense qu'il va faire...
Merci Gérard de Djougou. D'accord, merci beaucoup. On va accueillir Pierrot Pagna de Lumbashi. Bonjour Pierrot.
Bonjour Nabi, bonjour à l'invité, à tous les fidèles auditeurs de Okapi Service, c'est Christian Pagna.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs?
Merci Jody. J'étais la dernière personne, la magazine de la semaine passée, à avoir intervenu et mes questions n'avaient pas été répondues faute de temps que vous n'avez.
Quelle est la question en question rapidement? Rappelez-nous la question rapidement.
Oui, cette question était sur la présentation ou la candidature dans la province du Sankourou qu'on avait vu. Qu'on croyait que c'était une seule candidature. J'avais posé une question de savoir qu'est-ce que la loi dit sur ces bases. Et la réponse n'était pas donnée. Aujourd'hui, la première phrase que l'invité a prononcée, il a dit qu'il y avait un problème technique que seule la CENI connaît. Certes, je dis, lorsque l'expert de la CENI veut nous taxer des amateurs, qu'il sache aussi que ce sont des amateurs qui ont fait l'arche de Noé, et les professionnels ont fait le Titanic. Je passe directement à la problématique d'aujourd'hui. N'est-ce pas, la CENI veut analyser ce problème qu'ils ont jugé de prolonger les élections comme c'est le Yombi Bébé. L'invité peut nous préciser aussi de ça. La deuxième question, je voulais demander, quand le dire est bon, le facile n'a pas de profit. Avant de passer à l'organisation dans les provinces où ils n'ont pas voté, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est la loi lorsque un élu se fait accompagner de l'isolement par un témoin pour élire ou faire un choix de peur que ça se reproduise encore dans d'autres provinces qui n'ont pas encore voté. Et pour terminer, avec ces gestes qui se font, est-ce que ça peut être, ce n'est pas aussi une façon de se faire corrompre de la corruption? Si le spécialiste peut nous préciser de ça, qu'il peut placer aussi pour nous dire quelle est la place du projet de société que ces candidats nous donnent. Est-ce que ça a de l'impact lorsqu'on nous donne les choix que le peuple n'a pas accepté?
D'accord, merci.
Merci à tout le monde.
Bien, Ladislas Ilunga de Manono, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question?
Je remercie d'abord les FCC pour une victoire brillante aux élections des gouverneurs, surtout celle de l'honorable Manzamba Lazoé, car c'est de lui repose la conscience de tous les Tanganyikais, surtout celle de Manono, qui l'ont renouvelé la conscience législative nationale, ainsi qu'à la CENI pour les travaux abattus malgré certaines imperfections. J'avais une préoccupation adressée à notre invité. Au cas où les accusations de corruption décrivaient quelque part, ça avait vrai. Est-ce que la CENI a qualité d'invalider un gouverneur élu par les députés provinciaux comme c'était le cas au présidentiel avec le président Adolphe, les candidats Adolphe Mozit et Jean-Pierre Bemba qui ont été invalidés par la CENI? Je vous remercie.
Merci. Raphaël Bonga de Mbandaka, bonjour. Raphaël Bonga, vous êtes en Mbandaka, bonjour. Voilà, il n'est plus.
Allô?
Oui, Raphaël, quelle est votre préoccupation?
Allô?
Oui, Raphaël, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces?
Allô? C'est Samuel Bonga de Mbandaka.
Allez-y, Samuel, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Allô?
Bah, désolé, et Tati Mapoukou va s'occuper de lui. Monsieur Désiré Molekela, vous avez la parole.
Bon, je crois que Pierrot de Lumumbashi, il rêvait encore sur la candidature de Sankourou, où il n'y a qu'une seule candidature. Et il dit que la CENI parle de problèmes techniques. Effectivement, il y avait un problème technique. C'est comme ça que l'élection a été reportée. Il demande si on veut prolonger comme on l'a fait pour Yumbi, Beni Boutembe. Non, puisqu'en fait, le report est seulement de 3 jours.
De 3 jours. Donc le 13...
Le 13, il y aura bel et bien
avril, élection. Avril, il y aura élection.
Au Sankourou. Donc, qui s'apaise, qui ne s'inquiète pas. Alors, il pose également la question, que dit la loi si un électeur va dans l'isoloir, lui appelle ça un témoin. Bon, en fait, la loi dit ceci. Lorsqu'un électeur n'est pas en mesure de pouvoir faire son choix seul, pour diverses raisons, il peut se faire accompagner de quelqu'un de son choix, pourvu qu'il soit également électeur dans ce bureau de vote. C'est ça que dit la loi, un point, un trait. Si effectivement, dans certaines provinces, moi je n'ai pas assisté à tous les scrutins, lui peut-être l'avantage de le faire, il y a eu ce cas-là, je pense que certainement qu'il y a eu peut-être un candidat ou deux qui n'étaient pas en mesure de faire le vote seul, ça peut arriver. Et si jamais effectivement, comme je l'ai dit, dans une des provinces, cela a été contesté par certains candidats, qui ont même introduit un recours devant les juridictions compétentes pour justement contester le fait que certains candidats, certains électeurs, se soient accompagnés de quelqu'un lors du vote. C'est tout ce que je peux dire à ce stade. La loi est claire. On peut se faire accompagner de quelqu'un lorsqu'on n'est pas en mesure de faire le vote seul. Voilà ce que dit la loi.
Adrien, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai dit bonjour à tous les journalistes de la radio, mais aussi tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter à l'instant.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces?
Bon, moi, j'exprime premièrement la déception. Nous qui sommes la population, nous qui électons les députés, nous sommes très déçus d'avoir élu nos députés pour qu'ils aillent faire le choix de la population dans les différentes assemblées. Mais arrivé là-bas, les députés nous ont déçus. Alors moi, je voulais proposer ceci. Si le gouvernement peut, n'est-ce pas, proposer une loi qui va donner l'accès à la population de pouvoir voter et même le gouverneur de province. Tandis que le président de la République soit voté par l'Assemblée nationale et les assemblées provinciales. Puisque vraiment, c'est une déception chez nous, j'ai dit. Chaque fois que nous votons les députés pour qu'ils aillent faire le choix de la population, le cas de Jean-Claude Mbaende. Jean-Claude Mbaende a été majoritairement élu par la population. Mais arrivé là-bas à l'Assemblée provinciale, tout ce que nous avons vécu comme le cas lui-même a dénoncé.
Adrien, le candidat, le candidat.
La population est.
Adrien.
Sous le gouvernement,
Adrien.
Oui. Inutile.
Adrien, mais le candidat Mbaende avait retiré sa candidature bien avant. D'accord, d'accord, merci. Merci pour cette intervention, monsieur Désiré Mouriké.
Bon, d'abord, je reviens à la question de Ladislas, qui a dit, si jamais il y a accusation de corruption,
et est-ce que la CENI peut invalider
non,
les résultats?
La CENI n'a pas qualité pour invalider les résultats. Ce que la CENI fait, elle organise les élections, on compte les voix, on compile et on publie. Ceux qui peuvent invalider les résultats d'un scrutin, ce sont les cours et tribunaux, après gestion du contentieux. Là, je crois que c'est clair, on ne sait pas faire autrement. Alors maintenant, pour revenir à la déception de Adrien, bon, c'est son droit, il dit qu'en fait, les députés provinciaux n'ont pas voté selon la volonté du peuple, c'est possible. Il fait des propositions, et là, en fait, il s'agit de ce que l'initiative de la loi, qui peut peut-être pour les prochaines élections, modifier la loi. Mmh. Il propose que le président soit élu au scrutin direct par l'Assemblée nationale provinciale et le gouverneur par la population. Bon, c'est une suggestion qu'il fait. Bon, on peut que prendre acte, hein. Ce sont des idées comme ça qui sont émises. Et je pense qu'au niveau du gouvernement et des deux chambres, Sénat, Assemblée nationale, ils pourront peut-être voir dans quelle mesure ils peuvent tenir compte de ces propositions.
Mmh. Où en sommes-nous avec le dépôt des candidatures à l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Maïndombe et du Sud Kivu, à Yumbi, Beniville, Beni Territoire et à Boutembo?
Bon, en fait, la clôture du dépôt de candidature, c'est aujourd'hui, le 12 qu'on va clôturer. Mais la date d'hier, je peux quand même donner une idée de ce qui s'est passé hier, parce qu'on avait quand même les résultats. Mm-hmm. En ce qui concerne le retrait des formulaires, parce qu'il faut d'abord retirer des formulaires à la CENI, les remplir, et venir déposer avec toutes les pièces qui sont exigées par la loi. Pour le retrait des formulaires, pour les gouverneurs et les sénateurs dans les deux provinces, c'est pour ça de la manière suivante. Pour le gouverneur, on a enregistré 3 retraits de formulaires au Nord Kivu et 1 seul retrait au Maïndombe, pardon. Mm. Par contre, pour les dépôts, on a noté 1 seul dépôt au Nord Kivu. Jusqu'à présent, il n'y a pas que le dépôt de candidature au niveau de Maïndombe. Par contre, pour l'élection des sénateurs, il y a eu 9 retraits de formulaires pour la province du Nord Kivu, contre 3 formulaires pour la province de Maïndombe. Par contre, on a enregistré 1 seul dépôt de candidature pour le Nord Kivu et 3 pour le Maïndombe. Donc nous sommes en fait à la date de clôture, il n'est pas encore tard, c'est aujourd'hui, après
jusqu'à
la fin de
minuit,
journée, jusqu'à minuit, ouais, qu'on pourra savoir s'il y a plus de candidatures au niveau de ces élections.
Et à quand l'élection des sénateurs dans ces deux provinces-là?
Bon, l'élection des sénateurs aura lieu le 18 mai 2019.
Le 18 mai 2019.
Voilà, c'est ce qui est déjà prévu par le calendrier de la CENI.
Et à quand l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces dans le Maïndombe et au Nord Kivu?
Pour ces deux provinces, les élections sont fixées par la CENI au 30 mai 2019.
30 mai 2019.
Effectivement.
Donc, voilà, donc il y aura encore un mois, il faut attendre encore tout le mois de mai jusqu'à la fin. Pourquoi tout ce temps-là?
Bon,
pourquoi la CENI prend tout son temps pour organiser cela?
Généralement, il y a toujours, après qu'on ait publié la liste provisoire des candidatures, il y a un délai pour le contentieux. Et le délai varie selon le scrutin. Donc il y a un délai qui est donné, un plus grand délai, en ce qui concerne la candidature des gouverneurs et vice-gouverneurs. Mmh. Donc c'est normal qu'on mette plus de temps pour pouvoir laisser les cours et tribunaux gérer le contentieux délibéré et finalement publier la liste définitive des candidats qui vont concourir pour les postes de gouverneur et vice-gouverneur dans les provinces du Nord Kivu et du Maïndombe.
Par exemple, pour les élections des gouverneurs qui a eu lieu le 10 avril dernier, donc c'est la période des contentieux maintenant.
Oui, effectivement, c'est la période de contentieux qui est ouverte.
Qui est ouverte.
Qui est ouverte.
Et ça prend combien de temps?
Bon, ça prend à peu près un mois pour qu'on puisse gérer ce contentieux-là. C'est-à-dire que bon, les résultats seront donc publiés par les cours et tribunaux après gestion du contentieux.
Voilà, et après, c'est à ce moment-là que c'est à la Cour de confirmer les résultats,
oui,
donc, définitifs.
Oui, la CENI n'a fait que liste les résultats provisoires. Après le contentieux, ce sont les cours de tribunaux qui publient les résultats définitifs. Et là, c'est sans recours. C'est à ce moment-là que, en ce qui concerne les sénateurs, qui vont rejoindre leurs collègues qui sont déjà en train de délibérer au niveau donc de la session extraordinaire qui a plusieurs matières, notamment règlement intérieur et élection du bureau définitif. Et par contre, pour les gouverneurs et les vice-gouverneurs, lorsque les cours des tribunaux donnent les résultats définitifs, les listes de ceux qui sont élus sont envoyées à la présidence de la République, car la loi prévoit que c'est le chef de l'État qui investit les gouverneurs et les vice-gouverneurs pour qu'ils puissent commencer à travailler.
Voilà, c'est le chef de l'État qui les investit pour qu'ils puissent travailler. Alors, par rapport à cette grande question qui revient tout le temps, la corruption, vous avez dit la CENI n'a rien à faire par rapport à cette affaire, cette question de corruption. Il revient plutôt aux cours des tribunaux. Les gens doivent plutôt aller saisir les instances judiciaires.
Exactement. Parce que si la CENI devait maintenant s'occuper de la corruption, je crois qu'elle ne ferait pas bien son travail. Déjà, le fait d'organiser des élections, vous savez, ça prend du temps. Les préparatifs, la logistique, le recrutement, l'impression de bulletins, l'élection lui-même, il faut examiner et publier. Je pense que la CENI travaille en fonction de l'organique qui fixe ses compétences. La CENI n'a aucune compétence en matière juridique et judiciaire lorsqu'il y a contentieux. La loi est claire, la CENI ne fait que publier les listes provisoires, tant pour les candidats que les résultats provisoires des scrutins. Il appartient à toute personne qui se sent lésée ou à tout parti politique d'aller vers la cour des tribunaux comme le prévoit la loi pour introduire un recours au cas où ils estiment que la CENI n'a pas publié les bonnes listes des candidats ou n'a pas publié les bons résultats. Donc la CENI ne fait que son travail, ne peut pas se mêler au travail des cours et juridictions. Cela doit être bien entendu pour tout le monde pour qu'il n'y ait pas confusion de rôle et que la CENI ne puisse empiéter sur la plate-bande d'autres institutions qui sont investies et qui ont des compétences précises aussi bien au niveau de la Constitution que de l'organique concernant ces cours et tribunaux.
Et par rapport à tous ces scrutins, est-ce que on fait recours toujours à la machine à voter ou bien les mises de côté?
Non. La machine à voter, je crois qu'elle a fait ses preuves.
Bien qu'elle était décriée, mais après...
Au départ, elle était décriée parce que c'était une inconnue. Je comprends. Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on doute un peu. Mais je pense qu'après les scrutins, les gens se sont rendus compte que c'était la solution. Donc, je pense que nous comptons avec la machine à voter. Et même pour l'élection des sénateurs, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, c'est avec la machine à voter que se fait le vote.
Même pour les locales qui vont venir, la machine sera toujours présente.
Elle sera toujours présente. Elle sera toujours là lorsqu'il y aura élection donc urbaine, municipale et locale.
Bien, merci Monsieur Désiré Molekela Ebene. Je rappelle que vous êtes directeur de l'éducation civique et électorale et sensibilisation à la CENI. Merci d'avoir participé à ce magazine électoral et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Bien, c'est par ici que nous mettons un terme à ce magazine électoral qui a porté sur l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Désiré Molekela Ebene, directeur de l'éducation civique électorale et sensibilisation à la CENI, était notre invité. Toute l'équipe vous remercie de votre attention. Tati Mapoukou était à la réalisation, Marcel Ngombo a assuré la coordination, Jean-Claude Siala était à la technique, au micro Jody Daniel Cachaman sous la supervision de Tina Salama. Excellente condition d'écoute des programmes sur la fréquence de la paix.